n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, quelle actualité avez-vous retenu aujourd'hui ?
Récemment, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation. Les larmes me sont venues en regardant des programmes télé. Pas n'importe lesquels, je ne dirais pas que ces programmes sont les pires de ce que l'on peut faire, ils ne sont en tout cas pas les meilleurs. Entre jeu et télé-réalité, ils mettent en compétition des individus dans un domaine, chanson, cuisine ou mode. J'adore ce genre de programme, programmé justement pour susciter l'émotion, l'enthousiasme, la frustration, tire-larme à souhait. On sait tous qu'ils sont conçus pour ça, qu'ils marchent pour ça, et pourtant, les émotions bien réelles sont quand même là. D'où ma question aujourd'hui, des larmes artificielles, programmées, seraient-elles moins sincères que d'autres ? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises larmes ?
Regarde, Stan arrive. Il a l'air déprimé, il est trop triste.
Alors, écoutez, c'est une décision très, très, très difficile à prendre. Je veux que vous sachiez qu'Alexa et moi, on est stylistes comme vous. Et on sait combien c'est important pour vous. Et on est très attachés à vous. Vraiment. Nous ne voulons pas faire le mauvais choix. Non, c'est pas à vous de me réconforter. C'est moi qui devrais le faire. Voilà, on vous aime tous. Vraiment.
Depuis fin janvier, Netflix propose une série d'émissions sur la mode. Une quinzaine de candidats s'affrontent pour créer la meilleure tenue qui soit dans un style prédéfini au début de chaque épreuve. Militaire, denim, sport ou tapis rouge. Évidemment, chaque épreuve voit un ou deux candidats éliminés jusqu'à la fin où il n'en reste plus qu'un, le meilleur censé incarner le futur de la mode. Format classique, attendu, sans surprise, cette série joue sur les ressorts habituels. Pression du temps, tension ou solidarité entre les candidats, effondrement de certains ou au contraire explosion de personnages que l'on croyait discrets. Malgré cette routine, par flemme ou par goût, j'ai quand même regardé la dizaine d'épisodes presque à la suite et j'ai vibré à chaque moment. J'ai donc moi aussi pleuré quand Tan, le présentateur que vous avez entendu, a eu des doutes pour éliminer Farah et Kiki sur l'épreuve streetwear. En dépit de la conscience que j'avais de la pauvreté de ce programme, j'ai non seulement continué de le regarder, mais je me suis carrément laissée happer. Je ne l'ai pas regardé pour rigoler, avec dédain, mais de tout mon cœur. D'où mon problème aujourd'hui, j'ai pleuré, mais sans y être, sans y croire, et même pire, sans être touchée personnellement, sans me sentir concernée, sans être mue, ni par la joie, ni par la tristesse. Sans émotion donc. Paradoxalement, je peux dire que j'ai donc été émue, sans émotion. Comment est-ce possible ?
François Mitterrand aimait dire « Il faut garder la nuque raide quand vous savez que ce que vous faites est juste ». Eh bien, Pierre Mauroy a gardé la nuque raide lorsqu'il défendait les valeurs qui étaient les siennes et la vision qui était la sienne. Eh bien, je voudrais te redire, et je te le redis au nom de tous aujourd'hui, merci Pierre. Ne t'inquiète pas, on continue.
Voir un homme ou une femme politique pleurer est toujours un grand moment. Quand ces êtres de représentation que l'on croit toujours en contrôle sont saisis par l'émotion, quelque chose se passe. On a l'impression qu'une vérité surgit. C'est un vrai moment. Bien sûr, on peut avoir un doute. Parfois, certaines personnalités publiques jouent des larmes pour laisser penser qu'il se passe quelque chose, qu'elles font tomber le masque et se montrent à nu. Les larmes ne sont donc pas innocentes, même sincères, elles font partie d'une mise en scène. Mais qu'en est-il de ces larmes qui apparaissent quand on n'est pas acteur mais spectateur ? Aristote, dans son texte La Poétique, a bien décrit ce mouvement de la catharsis, le fait de se purifier de ses passions en les regardant jouer sur une scène. Aristote a aussi bien décrit ce mouvement de la mimésis, le fait de tirer des leçons morales, de faire la même chose ou pas à partir d'un spectacle auquel on assiste. Mais qu'en est-il quand on regarde un spectacle sans moralité ? Quand les passions mises en scène n'ont rien de crucial, rien de tragique ? Voilà le problème de ces larmes. Elles sont là, réelles, pas feintes, mais elles n'ont aucune valeur, ni émotionnelle, ni sentimentale, ni morale. Elles ne disent rien de nous, rien de ce qui se joue sous nos yeux. Elles ne nous montrent pas à nu, elles ne trahissent pas une pensée profonde et à l'inverse, elles ne servent à rien quand on n'a rien à jouer. Pourquoi sont-elles là alors ? Pourquoi avoir pleuré devant ce stupide programme télé ?
Le téléphone. Se meurt dans l'écouteur, oui, le téléphone. avec la voix.
Pourquoi ai-je donc pleuré ? Eh bien, j'ai plusieurs réponses. Peut-être ai-je pleuré par mimétisme. Voir des gens émus fait quelque chose. Peut-être par réflexe. Voir des gens émus doit correspondre physiquement à des stimuli nerveux. Peut-être par gêne aussi. Voir des gens pleurer nous met mal à l'aise. Ou alors, peut-être que j'ai mauvais goût. Ou alors, peut-être que je suis une sociopathe qui pleure sans raison. Sans raison. Au final, là est, je crois, le pouvoir de ces larmes. Je cherche à leur trouver une excuse, un prétexte, mais souvent, les larmes ne sont rien que des larmes. Ni sincères, ni feintes, ni bonnes, ni mauvaises, juste là.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.